Eugène Dabi, L'Hôtel du Nord. Émile Le Couvreur tira sa montre. Elle marquait 2h20. Monsieur Mercier, marchand de fonds, lui avait donné rendez-vous sur le quai de Jemmap, près du poste Vigie, pour 2 heures précises. Il chercha mentalement à excuser ce retard et dit à sa femme et à son fils qui s'impatientaient: « Oh, c'est un type qui s'y connaît, on peut avoir confiance. » Il regarda d'un œil plein de convoitise l'Hôtel du Nord qui se dressait de l'autre côté de la rue. Louise Le Couvreur proposa: « Si on entrait, on dirait au goûter qu'on est les acheteurs. De ce temps-là, M. Mercier sera peut-être arrivé. »« Ah, le voilà justement !» fit Le Couvreur. Il tira sur ses manches et toucha gauchement sa casquette. Il avait conscience d'être à un moment décisif de sa vie. Il fut saisi par l'importance du personnage qui s'avançait. M. Mercier n'eut aucune peine à expliquer son retard. Il l'attribua à une vente sur folle enchère, compliquée de purge. Le Couvreur hochait la tête avec gravité. Il devait, pensa-t-il, s'agir d'une maladie. Ils traversèrent la rue, M. Mercier et Le Couvreur côte à côte, Louise suivant avec son fils Maurice. M. Mercier ouvrit la porte de l'hôtel. Cérémonieusement, il introduisit Louise Le Couvreur, qui, le feu aux joues, se tenait derrière son mari. Philippe goûtait au comptoir, rinçait des verres. On fit les présentations. Madame Goutet apparut sur le seuil de la cuisine. Elle s'excusa d'être surprise en souillon. « Oh, j'étais après la vaisselle, dit-elle. Je cours changer de tablier, je vous suis. » La visite de l'hôtel commença. On accédait au premier étage par un escalier étroit et raide qui se coudait à mi-chemin pour ménager la percée d'une fenêtre. Sur le palier s'ouvrait un couloir desservant les chambres. La lumière arrivait d'une petite cour intérieure que le groupe franchit sur une passerelle et ensuite ce fut l'ombre dans le couloir. Le Couvreur s'en inquiéta. « Ben, dites-moi, on se croirait dans un tunnel. » Tout était noir, impossible de lire sur les portes les numéros des chambres. M. Goutet fit observer qu'en février, la nuit tombait vite. L'été où le couloir resplendissait, il ajouta magnifique, du reste l'électricité partout, et après une pause, même au cabinet. Les visiteurs marchaient à la file. Les portes espacées de 2 mètres en 2 mètres faisaient dans la nuit l'étage d'un noir plus épais. Le Couvreur en compta 13, toutes à sa gauche. L'étage visité, ils revinrent sur leurs pas et gagnèrent le second. C'est alors que Louise Le Couvreur demanda à voir les chambres. Madame Goutet, pincée, lui répondit: « Mais bien sûr, madame, bien sûr, c'est tout au grand jour ici. Philippe, tu as les clés ?» Au hasard, sembla-t-il, M. Goutet ouvrit une porte. La chambre était si petite qu'il n'y pouvait guère tenir qu'un visiteur à la fois. Ils y pénétrèrent tous les 6, à tour de rôle. Louise Le Couvreur s'y attarda. Une lumière grise s'accrochait au rideau déchiré. Un papier à fleurs d'étain attristait les murs. Le lit se trouvait serré entre une armoire de bois blanc et la table de toilette. Dans un coin, près du seau hygiénique, traînait une paire de vieux souliers. L'exiguïté, le dénuement, l'odeur de ce lieu créaient un malaise. Louise Le Couvreur se détourna. Ses compagnons avaient disparu. Elle les entendait bavarder dans le couloir. Sans doute visitaient-ils d'autres chambres. Oh, pour elle, celle-ci suffisait. Émile Le Couvreur ne s'étonnait pas de cette indigence. Durant la guerre, n'en avait-il pas vu d'autres? et des nuits dans les granges ou même à l'auberge de la Belle Étoile, comme il disait en riant. Il fallait aussi considérer le prix des chambres. À ce tarif-là, pouvait-on mieux offrir? D'ailleurs, toutes ces salissures partout prouvaient bien que les locataires se souciaient peu de propreté. C'est un confort dont devait guère les incommoder. Et puis, à quoi leur servaient ces chambres? À dormir, pas plus. Vous vous y habituerez, commença M. Goutet. Faut pas demander l'impossible. Ici, vous savez, avec les usines du quartier, c'est de la bonne clientèle d'ouvriers, tous du monde honnête, payant bien. On ne fait jamais de crédit, hein, c'est la mort dans notre commerce. La maison du dehors, là, rien de grandiose, bien sûr. Faudrait un fameux coup de torchon. Mais que voulez-vous, par le temps qui court, il n'y a que les passes qui puissent payer le prix du crépi. Il s'arrêta un moment et reprit. « Oh, ce n'est pas un hôtel de passe !» les coureurs dirent à l'unisson. « Oh oui, sûr qu'on voudrait pas une hôtel de passe !» M. Goutet approuva. « Bon, ces messieurs, dames, c'est comme pour nous. Notez qu'avec les femmes, on travaille, mais qu'est-ce qu'on prend comme ennui pour un oui ou pour un non ? La police fourrage dans vos papiers. Rien de ça, ici. Avec l'ouvrier, quelques jeunes filles, au troisième les ménages, sans gosses, bien entendu, c'est une vraie famille. Ah, j'oubliais, il y a aussi de vieux locataires qui finiront leur jour dans l'hôtel. » Il baissa la voix. Des cochons, des malheurs de clients qu'on ne peut pas augmenter. Le groupe atteignit le troisième étage. Une verrière épuisait à plein ciel la lumière. Sur le palier, on avait installé une fontaine et les cabinets. Le couloir était assez clair. Au bruit que firent les visiteurs, des portes s'entrebâillèrent. « Les ménages !» expliqua Madame Goutet. Le couvreur suivit M. Goutet dans un grenier qui servait de débarras. Les deux hommes examinèrent les combles et se hissèrent sur le toit. De là, reliés par une fine passerelle, on découvrait les quais de Jemmapes et de Volmy. Des camions chargés de sable suivaient les berges. Au fil du canal, des péniches glissaient, lentes et gonflées comme du bétail. Le couvreur, que ces choses laissaient d'ordinaire insensible, poussa un cri. « Oh, quelle vue ! Oh, ce que vous êtes bien situé !» Puis il ajouta, « Oh, je suis un vieux Parisien, mais voyez-vous, je ne connaissais pas ce coin-là. On se croirait au bord de la mer. » Il s'était arrêté auprès d'une cheminée et réfléchissait. Un pli barrait son front et donnait du poids à son visage, à ses petits yeux fureteurs. Des fumées tournoyaient dans le soir. Vers le faubourg du Temple, de gros nuages couvraient le ciel. La rumeur de Paris montait de toutes parts comme une exhortation confuse. Soudain, il se décida. Il fallait à tout prix acheter cet hôtel. « Si vous voulez descendre visiter le logement, » lui dit M. Goutet. Mais une lassitude l'envahissait. Parvenu au bas de l'escalier, il sentit une émotion indéfinissable lui serrer la gorge. Quelque chose de trouble poignait son cœur, la pensée des adieux prochains, des abandons, et devant ces lieux étrangers, encore, un mélange de détresse et de confiance, un goût de péril et d'aventure si violent qu'il en était oppressé. Non, vraiment, il n'avait plus la force de continuer la visite. Du reste, la nuit tombait, les clients commençaient à rentrer. Il valait mieux ne pas éveiller leur curiosité avant que ne fussent conclus les accords définitifs. Il promit au marchand de fonds de donner le lendemain sa réponse pour oui ou pour non. Et il fut heureux de venir s'appuyer au comptoir quand M. Goutet proposa de se rafraîchir. Tout en regagnant leur logis, Les Lecouvreurs commentent les événements de la journée. De vrais Auvergnats, ces Goutteils, remarque Louise. Ils n'ont rien à envier au désordre de leurs locataires. Elle, oh, je te parierais qu'elle passe son temps à faire des femmes manies avec les clients. Son ménage, t'as vu ça? La boîte à ordures en plein milieu de la cuisine et la couleur de l'essuie vert sur le comptoir. Oh, ça ne m'engagerait pas à boire, moi. Les chambres aussi sont bien négligées, mais avec un coup de torchon et un peu de goût, on pourrait en tirer quelque chose de coquet. Tiens, veux-tu que je te dise? Madame Goutteil picole. Elle a une gueule de bois qui ne me revient pas. Le couvreur marche en silence. Le bavardage de sa femme confirme ses propres impressions. Cet accord lui semble, pour leur projet, un gage de réussite. Autrefois, lorsqu'après bien des dépalabres, son beau-frère, commerçant enrichi, lui a proposé d'avancer l'argent pour l'achat d'un petit hôtel, Louise, devant les risques d'un avenir incertain, n'a pas caché ses appréhensions. Une décision aussi aventureuse rebutait sa prudence et sa simplicité d'ouvrière. Pour elle, le bonheur, c'était de vivre avec les siens, sans chômage ni maladie. On allait acheter un fonds et puis après, ni elle ni Émile ne connaissaient le métier d'hôtelier. N'était-ce pas pour tenter la destinée, demander plus que la vie ne peut offrir? On n'a jamais été patron, observait-elle. Le couvreur a tenu bon. Et voici qu'elle se rassure depuis que le projet prend corps. Elle se laisse aller à l'espoir, à la confiance. Ne se voit-elle pas, l'avant astiquant, mettant une petite cretonne dans les chambres? Un monde vierge s'offre à elle, une chance enfin d'embellir ses jours, de fixer sa vie. Le couvreur, très résolu, ne s'exalte pas. Mais qu'il a plaisir à sentir l'animation de sa femme. Il lui sourit, l'encourage d'un mot ou d'une simple pression de bras, tandis que mentalement, il suppute quels avantages il tirera des 8 années de bail. De temps à autre, il se penche sur son fils et d'une voix que le bonheur fait trembler. « Je crois que ce sera une belle affaire, Maurice !» Il descend le boulevard Barbès. Il s'avance le front sur cet asphalte qui est leur sol natal. De front unis et le monde s'ouvre devant leurs espérances. Leurs yeux luisent. Qu'il fait bon vivre un soir comme celui-ci, à l'heure où s'allument les réverbères, les rampes électriques et les enseignes et les devantures chatoyantes. Tout est oublié des anciennes rigueurs. Louise s'imagine déjà devant les soldes de la maison dorée, les doigts pris dans les flots d'étoffes. Elle s'arrête, les battements de son cœur la souversent. Le couvreur, lui, voudrait confier sa joie à tous. Il ne va pas se mettre à chanter, à courir sur le trottoir, à serrer sa femme dans ses bras. Il s'écrie « Allez, on dîne au restaurant !» Cette décision imprévue les enchante. Mais où iront-ils? Leur enthousiasme est troublé par une timidité dont ils ne peuvent se défendre. D'abord, peureusement, ils mesurent les prix à l'éclat des enseignes, puis ils sacrifient la prudence à l'ardeur qui les soulève. Le couvreur, décidé, pousse la porte d'un bouillon. Ils entrent dans une salle où 3 lustres répandent une lumière aveuglante. Il s'installe à une petite table. Sur la nappe d'un blanc glacé, les verres et l'argenterie imitation resplendissent. Ce luxe les intimide. Un garçon leur présente le menu, attend leurs ordres. Louise lit à voix haute la liste des mets. Dans ses yeux passe une lueur de convoitise. « Allô, ma petite, décide-toi, » dit le couvreur. « Eh bien, je sais pas, on prend de la soupe, des entrées. Ah tiens, on me choisit, toi. » Chez elle, Louise cuisine parce qu'il le faut bien. C'est la dernière corvée après que le travail est fini. Ce restaurant ressemble à un conte de fées. On n'y calme pas seulement sa faim, on y apaise les gourmandises d'une année. Garçon, trois cervelles, commande enfin le couvreur. Il déplie sa serviette, d'une voix mâle que sa femme ne lui connaît pas. « Allez, qu'est-ce que vous boirez? Du blanc, du rouge ?»«
Je veux bien du cidre, » s'écrie Maurice. « Moi, un peu de blanc, » demande Louise.
Ils mangent en silence avec une sorte de ferveur. L'abondance du repas comble leur sens et surprend leur esprit. Après le dessert, le café. Le couvreur appelle Maurice « Toto » comme jadis. Il regarde affectueusement sa femme, dont le visage, toujours grave et un peu triste, s'est adouci.
« Mais voilà une journée qu'on n'oubliera pas, jamais, dit-il. C'est comme le jour de l'amnistie. »
Il baisse la voix.
« Va falloir mettre ton frère au courant, Louise. »
Mais les clients se retirent, on peut converser à l'aise. Les locouvreurs s'affermissent dans leur résolution. Le garçon de salle, en éteignant un lustre, leur rappelle la réalité.
« Et si on finissait la soirée au théâtre ?» propose Maurice.
Le couvreur secoue la tête. « Oh non, non, vaut mieux rentrer. Faut être dispo demain. »
Il marche doucement, un peu engourdi par la chaleur du repas. Il tombe une pluie fine. Les rues sont désertes. Mais pour eux, la nuit est triomphale et complice de leurs rêves. Ils traversent la place Jules Joffrin. Voici l'église Notre-Dame de Clignancourt. En face, la mairie où les locouvreurs se sont mariés. Comme c'est loin tout ça. Et depuis, quel chemin parcouru.
Tu te rappelles, murmure Louise, qui s'appuie tendrement sur le bras de son mari.
Elle est transportée de confiance. Cette visite de l'Hôtel du Nord se prolonge mystérieusement en elle. Elle n'avait jamais imaginé un pareil milieu. Peut-être est-elle appelée à d'étranges rencontres. Bah, toute vie mérite qu'on s'y attache. Et l'inconnu n'est pas sans attrait ni profit. Ont-ils été assez méprisés parce qu'ils logeaient sous les toits? On les croyait pauvres, sans relation.
« Tout va changer, » pense-t-elle.
Le couvreur s'éveilla après un bien beau rêve. À peine était-il installé quai de Jemmap que son hôtel devenait trop petit pour la clientèle. On surélevait la maison. Une foule de curieux s'y précipitait. Du toit, on avait vu sur la mer. Le couvreur se leva en souriant de ses heureux présages. Il aurait aimé les confier à sa femme, mais elle dormait. Il fit sa toilette et sortit son costume neuf de l'armoire. Il se sentait dispo, plein d'assurance. La nuit lui avait porté conseil. C'était oui. À 9 heures, il arrivait chez le marchand de fonds. Un honnête homme, monsieur Mercier. Heureusement, car le couvreur ne comprenait pas grand-chose aux papiers qu'on lui donnait à lire. L'acte de vente lui semblait obscur, compliqué, un vrai grimoire avec ses 14 articles. Il n'osait bouger ni demander trop d'explications, encore moins lever les yeux sur le bureau dont les murs encombrés de dossiers l'impressionnaient. Il se passa la main sur le front comme pour chasser l'angoisse qui lui serrait la tête. Il était en sueur. Quelques phrases difficiles bouillonnaient dans son cerveau. Tout aurait été si simple sans ses paperasses. Enfin, désemparé, piteux, il consentit à tout. Monsieur Mercier se leva et lui tapa sur l'épaule. « Mais vous voilà propriétaire, une mine d'or, cette maison !»«
Vous croyez ?» fit le couvreur. « Je voudrais pas manger l'argent de mon beau-frère. »
L'importance de son acte le bouleversait. Il tournait nerveusement sa casquette entre ses doigts. Monsieur Mercier sourit.
Avant 8 ans, vous serez rentier.
Il lui serra la main. Allez ce soir chez Goutet. Le couvreur, rassuré, se rendit au Marais dans le quartier où il avait travaillé longtemps comme cocher-livreur. Il voulait revoir ses amis. Il entra chez plusieurs marchands de vin et raconta, en enjolivant un peu, son aventure aux camarades. On l'entourait, on le félicitait. Il avait bien mérité cette bonne fortune. Sa journée se passa en libation et en adieu. À 8 heures, il retrouvait sa femme et son fils chez les Goutet, qui donnaient un dîner pour fêter la signature de l'acte de vente. Les Goutet avaient réuni 2 tables au fond de la boutique. Sur la nappe blanche s'alignaient des assiettes, des plats, des hors-d'œuvre, sans parler des bouteilles depuis le Porto jusqu'au vieux Bourgogne. Au centre de la table fumait déjà la soupière. Les invités arrivèrent, on s'assit. Goutet versa son porto.
« Buvez-moi ça, oh, vous m'en donnerez des nouvelles !»
Il fit claquer sa langue, leva son verre. « À la vôtre !» Ensuite, chacun baissa le nez sur son potage et l'on n'entendit plus qu'un bruit de cuillère. Après les hors-d'œuvre, Goutet emplit les verres d'un vin du pays dont il vantait le bouquet en clignant de l'œil. On parlait déjà affaires, naturellement. Soudain, Monsieur Mercier dit d'un ton péremptoire.
Allez, laissons ça de côté, ce n'est plus l'heure.
Au dessert, Goutet, la face hilar, fit sauter le bouchon d'une bouteille de mousseux.
Oh, vide votre cave, souffla le couvreur, très touché de cet accueil. Le repas trop copieux, le Bourgogne, les libations de la journée, tout contribuait à l'attendrir. Il se leva, son verre à la main.
À la santé de nos successeurs.
Non, 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 interrompit Monsieur Mercier, ce n'est pas ça. Vous êtes le patron maintenant. Le couvreur chercha à se reprendre, mais tout le monde riait et il se rassit. Des clients, attirés par le bruit, avaient peu à peu envahi la boutique.
« C'est la noce !» dit une voix à l'accent méridional.
« Oui, monsieur Pluche !» répliqua Coutet. « Allez, approchez tous que je vous présente à nos remplaçants !»
Il y avait là Mimard, le père Louis, Pélican, le père de Borger, Dago, des vieux de l'Hôtel du Nord et Latouche, le camionneur voisin. Goutet les présenta un à un. Puis avec une pirouette qui amusa, il dit...
« Je régale d'une tournée générale, Fouchtra !»
Il n'avait pas fini d'étonner son monde. Il était un brin pompette lorsqu'il proposa à sa femme de danser la bourrée. Les chaises rangées dans la cuisine, les tables poussées contre les murs, Marthe Goutet et son mari glissèrent sur le carrelage et battirent de lourds entrechats. Goutet s'accompagnait en chantant. Les spectateurs frappaient dans leurs mains, se tordaient de rire. Quel beau bougre, ce patron-là! Monsieur Mercier, Louise et son frère bavardaient dans un coin. Le couvreur passait d'un groupe à un autre groupe, trinquait, cherchait à inspirer confiance à ses futurs clients et regardait autour de lui avec un plaisir attendri. Comme tout le monde était sympathique. Dans la fumée qui assombrissait le café, il voyait se dérouler ses rêves d'avenir. Coutet jeta un coup d'œil sur la pendule.
« 1 heure, diable !» dit-il en cessant de danser. « Pas le moment de se faire dresser une contravention, va falloir fermer boutique. »
10 minutes plus tard, les Le Couvreur quittaient leurs amis et traversaient le canal sur la passerelle. Ils s'arrêtèrent un instant pour regarder l'Hôtel du Nord. Bon, on ne pouvait pas en voir grand-chose à cette heure-là. À peine si un réverbère permettait de distinguer les fenêtres du premier étage. Le reste se perdait dans la nuit. Louise sentit mourir la confiance qui jusque-là l'avait tenue joyeuse. C'est dans cette maison qu'ils allaient vivre. Elle tourna la tête et frissonna. Le canal était désert, à côté d'eux l'eau tombait d'une écluse avec un bruit sinistre. Elle se serra contre son mari. « Oh, Émile, rentrons vite !» À quelques jours de là, les Lecouvreurs emménagèrent. Ils placèrent leurs meubles au petit bonheur dans l'arrière-boutique. Louise se chargerait plus tard d'apporter de l'ordre. La cuisine, éclairée d'un vitrage, prolongeait le café. Elle se terminait par un triangle où trouvaient place le placard au linge sale et celui de la boîte à ordures. Puis s'ouvrait une chambre carrée, haute de plafond, au mur nu, percé de deux fenêtres. Sous la montée de l'escalier avait été ménagé un réduit obscur, sans autre jour qu'une porte vitrée, le bureau. Il contenait une chaise, le tableau d'éclairage et le lit de fer du portier. Les Lecouvreurs, habitués à vivre à l'étroit, ne dissimulaient pas leur satisfaction de ce logement. « Vous pouvez vous estimer heureux, » disait Madame Moutet. « Bien des commerçants sont mal logés. L'ouvrier, sans doute pas, il croit que tout est rose pour nous. Eh bien non, métier de commerçant est pas si rose que ça. Oh, je veux pas vous décourager, madame, mais c'est la vérité. Faut être à la disposition de tous, rendre des services, écouter les cancans. Sans ça, le client vous lâche. Jamais tranquille, toujours à la merci d'un homme sourd. Quant au dimanche ici, bernique. » Les Lecouvreurs n'écoutaient pas ce bavardage. En eux couvait l'impatience du paysan qui va prendre possession d'un bien longtemps convoité. Lecouvreur avait noué un tablier bleu sur son ventre, retroussé ses manches de chemise, enfoncé sa casquette sur les yeux pour en imposer davantage. Monsieur Goutet, près du comptoir, le mettait au courant. Ils inventoriaient les apéritifs, l'amourette, le Junot, l'anis del Oso qui remplace l'absinthe d'avant-guerre, le bir, le quinquina, le dubonnet, boissons inoffensives, le vermouth, la mer, le sazano et tant d'autres flacons dont l'éclat bariolé amusait l'œil avant de tenter la soif. Quittant ses en main, M. Goutet donnait des adresses de fournisseurs. Puis, dans un verre à apéritif, avec de l'eau, il indiquait la proportion des mélanges, ainsi que la façon de faire un faux col, c'est-à-dire de ne pas remplir le verre jusqu'au bord. Il était 4 heures, tout le monde travaillait, la boutique était vide. Soudain, la porte s'ouvrit, un homme entra en coup de vent. « Un vin rouge !» M. Goutet mit un verre sur le comptoir et passa le litre à Lecouvreur. Il le regarda verser. 50 centimes, dit-il. Mais il ne toucha pas la pièce laissée par le client. Ce fut Lecouvreur qui la ramassa et la glissa dans la caisse avec un contentement intérieur. D'autres clients arrivèrent. Lecouvreur les servait, puis essuyait le zinc du comptoir avec une lavette, rinçait les verres dans un bassin d'eau courante, vérifiant leur limpidité d'un clin d'œil. « Non, bon vieux, vous vous en lasserez, » remarquait M. Coutet. Alors donc, il semblait à Lecouvreur qu'il avait toute sa vie fait ce métier-là. Il rayonnait. La réalisation de son rêve l'emplissait de confiance. Il lui arrivait bien, parfois, de commettre une maladresse, briser un verre, confondre les apéritifs. Mais M. Goutet le consolait en riant. « Profit et perte !» disait-il. Ce changement de propriétaire, qu'annonçait une bande de calicots posés à l'aventure, révolutionnait l'hôtel. Les locataires défilaient au comptoir. Ils s'étonnaient d'y trouver Lecouvreur déjà en fonction. Le visage de M. Goudet s'éclairait d'un bon sourire. Familier, il posait la main sur l'épaule de son protégé, et d'une voix persuasive, « Allez, vous verrez, les gars, c'est un as !» Il faisait signe à Louise d'approcher.
Allez, on vous mangera pas. »
Puis il la présentait. La glace était rompue. Le couvreur serrait des mains, versait des consommations avec un zèle d'apprenti et se mêlait aux conversations qui déviaient sur la politique comme dans tous les cafés. Et il n'était pas surpris si les clients, quand il leur servait à boire, le traitaient à la blague d'empoisonneur. Coude à coude, derrière le comptoir, M. Goudet disait à Louise « Vous voyez, ce sera comme ça tous les jours. » René Lévesque vivait à l'hôtel en compagnie d'un ouvrier serrurier, Pierre Trimaud. C'était une fille de campagne, blonde et grassette, aux yeux bleus indécis, aux pommettes piquées de son. Mollement accoudée à la fenêtre, des jours entiers, elle suivait du regard les péniches qui glissaient aussi lentes que ses pensées. Elle songeait au premier temps de sa liaison. Trimaud travaillait alors à Coulommiers, elle l'avait connu dans un bal. Ils étaient sortis ensemble. Bientôt, séduite par les promesses de son galant, elle débarrait avec lui Kelgemap, ne possédant pour tout bien qu'une valise d'osier et des souvenirs d'orpheline. Chaque soir, René allait attendre Trimaud à la porte de l'atelier. Elle n'existait plus que pour ses rendez-vous et s'y préparait à ce avec une coquetterie naïve. Elle arrivait toujours trop tôt. Elle devait faire les 100 pas sur le trottoir de l'usine. Enfin, son amant paraissait, il s'embrassait à pleine bouche. « Pierre, on va rentrer à pied !» chuchotait René. Il lui passait un bras autour de la taille et la laissait jaboter. Il musardait aux étalages des magasins, s'arrêtait au carrefour pour écouter la chanson en vogue. C'est ainsi que René fit la découverte de Paris. Les premiers mois, le samedi, Trimaud la conduisait au cinéma. Mais c'était un homme bilieux, despotique, qui se déprenait de ses conquêtes. La pauvre était sans malice, et quand Trimaud eut bien usé d'elle, un matin, après une scène, « Oh, ma petite, j'en ai marre de t'entretenir !» René avait 22 ans. Elle n'était ni belle ni laide. Ses joues rebondies sentaient encore la campagne. Sa jeunesse avait été malheureuse et soumise. Trimaud se montrait égoïste. Soit elle travaillerait pour lui plaire. Elle s'engageait dans la vie sans avoir souci du bien ni du mal. Elle admirait les femmes qu'elle croisait dans la rue. Les unes surgissaient devant elle parées comme des idoles, les autres, ou quelquefois de très jeunes filles, se glissaient au milieu des hommes avec un sourire provoquant, et elle enviait leur hardiesse. Elle prit honte de son teint hâlé et se poudra. Elle se mit du rouge aux lèvres et sa bouche se dessina comme un beau fruit sur lequel elle passait sa langue. Elle consultait avidement les catalogues des magasins. Parfois, avant d'aller chercher Pierre, elle faisait un petit tour au printemps ou aux galeries. Sa robe des dimanches lui semblait bien laide. Maladroite à plaire, elle tenait à son amant qui lui avait révélé sa beauté. Par un obscur besoin de s'émerveiller, elle restait devant l'armoire à glace à s'éblouir de son visage. Elle inventait de nouvelles coiffures et chaque jour se fardait un peu plus. Son corps lui causait des surprises. Elle aimait à le comparer aux nudités des cartes postales qu'elle volait dans les poches de Trimaud. Ses rapprochements l'exaltaient et puis lui inspiraient une jalousie torturante. Le travail imposé par Pierre, c'était, elle le sentait bien, leur amour qui déclinait. Elle se rhabillait, plongée dans ses pensées, sans un regard vers la glace. « Les le couvreur cherchent une bonne, se disait-elle. Je pourrais peut-être faire l'affaire. C'est Pierre qui serait content. » La besogne de l'hôtel ne l'effrayait pas. À l'orphelinat, elle avait appris à coudre, à faire le ménage. Pour elle, l'essentiel était que Pierre lui restât. Ce matin-là, le café était vide. Le couvreur essuyait des verres au comptoir. René poussa la porte et, le cœur battant, s'avança. « Bonjour, lui dit le patron, vous venez boire quelque chose ?» Elle secoua la tête et balbutia. « Vous avez besoin d'une bonne ?»« Oui, mais ma femme n'est pas là. C'est elle que ça regarde. » René soupira. Elle tremblait de voir repousser sa demande. Quelle autre place pouvait-elle espérer? Elle s'assit. Enfin, la patronne arriva. « Mademoiselle voudrait entrer à notre service, » expliqua le couvreur. Louise regarda sa locataire. Dans les premiers jours, elle méprisait les filles qui, là-haut, vivaient en ménage, mais elle était devenue moins sévère. René ne lui déplaisait pas, parce qu'elle entretenait soigneusement sa chambre. « Je veux bien vous prendre, » dit-elle. « Nous donnons 250 par mois, nourris, blanchis, plus le pourboire des locataires. Pour le travail, vous y ferez vite avec un peu de tête, ou je ne demande pas l'impossible. » René n'entendait plus. Elle songeait ce soir à la surprise de Trimaud. Elle se jetterait à son cou. Non, elle attendrait son baiser. Elle lui dirait « Devine !» Et déjà, elle imaginait sa curiosité. Qui n'était pas facile à satisfaire. Enfin, elle ne pourrait pas longtemps lui cacher la surprise. Elle finirait par avouer. Louise la tira de son rêve. « Vous commencez tout de suite, hein? Je monte avec vous dans les chambres. Allez, prenez le balai et le seau. Pour aujourd'hui, je vous prêterai un vieux tablier. » À midi, René déjeuna à la table des Lecouvreurs. Des clients s'en étonnèrent. « C'est votre bonne, madame la patronne. Vous en avez de la chance. Oh, vous n'avez pas été loin pour la trouver. » René écoutait, le bonheur empourprait ses joues. Un sentiment d'orgueil, de sécurité, jusqu'alors inconnu, l'envahissait. Elle remonta à travailler et la journée s'écoula vite. À 6 heures, elle gagna sa chambre. Elle mit sa belle robe, s'accouda à la fenêtre et attendit Trimaud. Il lui semblait qu'elle avait soulevé des tas de matelas, balayé des kilomètres de plancher. Des numéros dansaient dans sa tête. Elle était encore toute surprise de la variété des chambres qu'elle avait visitées. Elle trouvait sa besogne plus douce que celle de la ferme. Là-bas, lorsque le soir venait, elle n'avait rien à espérer qu'un silence engourdissant, et il lui fallut parcourir plusieurs kilomètres pour aller à un bal. Au contraire, quai de Jemmapes, les réverbères s'allumaient et mêlaient leur éclat à celui des devantures. Des hommes rentraient du travail en fredonnant. On entendait crier en bas dans la boutique. Une fièvre brûlait René. Elle voyait se dérouler ses projets d'avenir. Pierre l'épouserait. « Mais que fait-il » murmura-t-elle. « Il avait dû s'attarder au café, il arriverait en grognant d'avoir dépensé ses sous. » Mais elle lui pardonnait ses défauts, puisqu'il l'avait choisie, elle, parmi tant d'autres femmes. Elle rêvassait quand soudain Pierre ouvrit la porte. « Qu'est-ce que tu fous là, dans le noir ?» Il alluma l'électricité, jeta sa casquette et tomba sur une chaise. « Mais tu te fiches de moi, maintenant? Je dois t'attendre à la sortie de l'usine » dit-il d'un ton rogue. René réprima un sourire. Elle s'approcha de Trimaud, lui entoura le cou de ses bras nus. Des baisers gonflaient ses lèvres. « Pierre !» chuchota-t-elle. Mais il la repoussa. Elle n'y tint plus et s'écria « Pierre, je travaille !»« C'est pas trop tôt, » répondit-il, sans rien laisser paraître de son plaisir. Et il pensa aux agréments d'une vie plus facile et laissa René s'asseoir sur ses genoux. Il lui passait distraitement ses mains noires dans les cheveux et elle, tête renversée, fermait les yeux de bonheur. Quelques minutes plus tard, comme il avait faim et qu'aujourd'hui on pouvait se payer un extra, il lui dit « Allez, habille-toi, on dîne à la chope des singes !» Et gaiement enlacés, ils descendirent au restaurant. Le père Louis, Mimard et Marius Pluche étaient grands joueurs de cartes. D'interminables manies servaient de prétexte pour boire. Pluche montrait de la hardiesse dans le choix des consommations. Tandis qu'on distribuait les cartes, il inspectait du regard les bouteilles alignées derrière le comptoir. Les nouvelles étiquettes allumaient dans ses yeux des convoitises d'enfants. Il déchiffrait « Chambéry fraisette ». « Hé, Mimard, tu paies un Chambéry fraisette ?» Mimard, entêté dans ses habitudes, grommelait. « Bon, la nouveauté, ça ne me dit rien. Moi, je reste au Pernod. » Il inscrivait les gains sur une ardoise, et chaque fois qu'il avait fini ses additions, avec une solennité rituelle, il crachait dans la sciure qui couvrait le carrelage. Le couvreur, qu'ils obligeaient à jouer avec eux, se levait dès qu'il pouvait pour remplir les verres. Ce jeu l'excédait. Toujours les mêmes discussions, les uns qui en tiennent pour la mer, les autres pour l'anis, celui-ci qui est unitaire, celui-là qui est cégétiste, et tout ça vociféré comme si le sort du monde devait en dépendre. Pendant qu'il jouait, Louise, au comptoir, servait les clients. Le père de Berger commandait un Bordeaux rouge. Dago, un vieux Bourgogne. Constant, le typographe, exposait les raisons pour lesquelles il avait lâché sa maîtresse. À Benoît, un armurier. « Une salope » répétait-il, ponctuant ses mots de coups de poing sur le zinc. Auprès du poêle s'installaient Volovitch et sa femme, ancienne pupille de l'assistance. Le mari, grand blessé de guerre, commandait un café nature, sa femme un café rhum. Les jours de paix, ils buvaient tous deux un grog carabiné. Vers 11 heures, la porte claquait et entrait en chantonnant Gustave, le pâtissier. Il était toujours ivre, prêt à débiter des histoires surchargées comme des rêves. « Ah, voilà ta table !» s'écriait Mimard. Il posait ses cartes. « Paye-nous une tournée !» Gustave obéissait, tout le monde trinquait, puis montait se coucher. Le samedi, les manieurs s'acharnaient. Aux approches de minuit, le couvreur, qui bâillait, regardait ostensiblement la pendule. Il allait d'une table à l'autre, faisant sur les mises des remarques machinales et se raidissant contre la fatigue. Le désir de se libérer de ses dettes lui donnait du courage. Que de petits verres à verser encore avant d'acquitter le dernier billet de fond. Venait enfin le moment d'avertir les clients de l'heure tardive. Certains, endiablés avec leurs cartes et peu pressés de retrouver une chambre froide, se faisaient tirer l'oreille. Il fallait, en les ménageant, les pousser dehors. La clientèle s'en allait. Un brouillard bleuissait la salle qui semblait avoir été le théâtre d'une rixe. Des flaques brillaient sur les tables, les verres poissaient aux doigts. Le couvreur ouvrait à deux battants la porte du café sur la pureté de la nuit. Il la buvait longuement comme une haleine fraîche, plus plaisante à sa bouche que la fumée des pipes et des alcools. Mais parfois, trop las, le cœur lourd et l'esprit craintif, il n'avait plus qu'un désir, faire les comptes de la journée. C'était une grave et laborieuse opération qu'il recommençait pour mieux se convaincre de l'excellence de ses affaires. Enfin, il inscrivait le chiffre de la recette sur un cahier à tranches rouges, dont le contact, chaque fois, lui faisait battre le cœur. Le couvreur couchait dans le bureau. Au-dessus de sa tête était posé un tableau électrique avec les fusibles, l'horlogerie du comptoir, une lampe témoin pour chaque chambre. À sa gauche se trouvait une poire pour ouvrir automatiquement la porte de l'hôtel. Les clients rentraient à toute heure. C'était leur droit. À quel point le couvreur pouvait en souffrir? Il s'étendait, fermait les yeux, quand une clameur furieuse le tirait de son assoupissement. « Mais nom de Dieu, qu'est-ce que vous fabriquez? Ouvrez !» Il saisissait la poire machinalement. Quelquefois, une minute s'écoulait avant qu'il ne la rencontrât. Le client entrait en annonçant son numéro. Son ombre s'inscrivait sur la porte vitrée. Au-dessus de lui, le couvreur entendait un pas lourd à choper sur les marches de l'escalier. Il glissait son bras sous le traversin. Pam, pam, oh, une autre vague de locataires arrivait. Plongé dans un demi-sommeil, il ne ménageait plus ses expressions. Il avait cependant conscience de son devoir. Le samedi, la rentrée se faisait lentement, alors impossible de dormir. Des clients ivres, ne trouvant plus la sonnerie, frappaient du pied contre la porte avec des appels pâteux. En chemise, le couvreur se levait et allait ouvrir. « Tâchez de ne pas vous tromper de chambre, » grommelait-il. Il regardait la pendule. 2 heures du matin. Faisait une petite ronde dans la boutique que les becs de gaz du canal éclairaient faiblement. Des ombres, parfois, s'attardaient devant le café, dessinant sur les vitres des angles et des courbes fantastiques. Des rôdeurs, peut-être. Oh, les boulevards extérieurs n'étaient pas loin. Il soulevait un rideau. Non, les trottoirs restaient déserts. En face brillait le réverbère du poste vigie, portant un écriteau rouge, que le couvreur appréhendait de retrouver dans ses rêves, secours aux noyés. Tout n'était que silence, repos autour de lui dans ses 40 chambres où tant de vies précaires avaient pris refuge. Il regagnait son lit, secouait la sueur collée à ses pieds nus et, recru de fatigue, il s'abandonnait au sommeil. À 5 heures chaque matin, Dago, qui est employé au service des ordures ménagères, tire le couvreur de son anéantissement. Un premier appel reste sans réponse. Dago continue. « Cordon, s'il vous plaît !» Puis énervé. « Mais la porte, bon Dieu !» D'un geste aveugle, le couvreur saisit le cordon. Le sentiment d'un cauchemar qui se précise finit par l'éveiller tout à fait. Il se met sur son séant, bâille et se tâte peureusement. C'est l'instant plein d'aigreur où il lui faut oublier sa fatigue. Comment trouver le repos dans un sommeil dépourvu d'abandon et de confiance? À guetter les bruits du soir jusqu'à l'aube, une torpeur appesantit les membres. Le front est lourd, l'échine endolorie. Le couvreur se lève cependant. Il enfile ses vêtements raidis par le froid, puis il passe une serviette humide sur son visage fripé de sommeil. Il n'a pas fini d'attacher ses bretelles que déjà il prépare le café. Il apporte à la toilette du Perco tous les soins qu'il marchande à la sienne. Et je te frotte, et je t'astique. Voilà qui fait reprendre conscience et donne goût à la vie. Le Perco rayonne comme un phare. Dans ses flancs, l'eau bouillonne, une vapeur embaumée s'en échappe. Tout est prêt. Les locataires partiront au travail avec un bon jus dans le ventre. Il est temps d'ouvrir la boutique. Voici paraître le père Louis, un ouvrier maçon ratatiné et goitreux. Que le ciel soit pur ou chargé, l'aube sereine ou venteuse, il se campe sur le seuil du débit en attendant son café rhum et regarde longuement l'horizon.
Ben, je crois que pour aujourd'hui, ce sera du beau temps.
Ah, tant mieux, répond le couvreur. On en a soupé de l'hiver. Une lumière terreuse éclaire la boutique. Maintenant, les clients arrivent à la file. Tous pressés, ils avalent debout le café brûlant.
Est-ce que ça chauffe, patron, votre machin ?
Dame, ça vient d'être fait. La plupart, pour se dégourdir, corsent le jus d'un petit rhum ou d'un cognac. Ils ont quitté leur chambre à la hâte et c'est devant le comptoir qu'ils achèvent de se vêtir. Mal rasés, à peine lavés, leur visage transi à la couleur du petit jour. Le sommeil altère leur voix et fait battre leurs paupières. C'est avec des malédictions des putains de métiers qu'ils sortent de leurs rêves. Parfois, ils tombent assis sur une chaise, ils s'étirent. Un destin monotone les accable.
Vivement ce soir qu'on se couche.
Existence machinale, irrévocablement rêvée à des tâches sans grandeur. Il y a là des gens de tout métier. Quelques employés, un comptable, des garçons de salle, des électriciens, deux imprimeurs. Et tous les ouvriers du bâtiment, terrassiers, plâtriers, maçons, charpentiers, de quoi refaire Paris si un tremblement de terre venait à le détruire. Mais à cette heure, ils ont tous disparu. Un peu plus tard, de jeunes femmes apportent une animation nouvelle. Des ouvrières qui travaillent aux poceries et filatures du quartier, des vendeuses, des dactylos. Elles commandent un café crème qu'elles boivent à petites gorgées. Tout en grignotant une brioche, elles se regardent dans les glaces du comptoir, puis elles se maquillent avant de gagner la rue. Louise les observe sans bienveillance.
« Toutes des fricoteuses, pense-t-elle. Elles feraient mieux de se laver que de se mettre de la poudre de riz. »
Et quand la dernière est partie, elle ouvre toute grande la porte du café, comme son mari s'étonne.
« Mais ça peste ici !»
Dehors, le quartier s'éveille. Les boueurs amassent à grands coups de pelle les ordures amoncelées à la lisière des trottoirs. Les commerçants installent leurs éventaires. On entend monter le rideau métallique de la chope des singes. Avant de gagner les chambres, René vide le poêle et balaie la boutique dont le carrelage est déjà souillé de mégots ou de crachats. Deux vieilles blanchisseuses qui travaillent au bateau-lavoir du quai de Valmy, la Berthe et la Félicie, commandent un petit mar pour passer l'hiver sans crevasse. Bientôt après arrivent les cochers de chez Latouche.
Tous bon diable, mais gueulard!
Les plus jeunes posent aux gars affranchis, avec leurs pantalons à pattes d'éléphant, leurs foulards tordus sur leur nuque rasée. L'un d'eux, Marcel, un beau gaillard qui fréquente les rings, arbore comme un pavillon un jersey de sport et fume du tabac de luxe. À l'entendre, l'odeur du tabac anglais fait pâmer les femmes. Avec un accent traînard de Parisien, il se vante de ses conquêtes. René l'écoute, appuyé sur son balai, la bouche entrouverte, le regard perdu. Pourtant, lorsqu'il vient lui pincer la taille, elle pousse un cri. Louise, sans méchanceté, intervient.
« Oh, dites donc, grand dégoûtant, on n'est pas au bal. Ma parole, ils ont tous le diable au ventre ce matin. »
Plus âgés, les camionneurs se passionnent pour la bouteille. Leur tenue est négligée, leur voix grasse. Presque tous deviennent brutaux. Ils nourrissent contre les chauffeurs une haine corporative. Le perpétuel défi des trompes et des klaxons les rend fous. Et s'il arrive qu'une auto les dépasse dans une montée, ils font payer cher cette défaite à leur malheureux attelage. Ils finissent par avoir des démêlés avec la police, démêlés dont ils ne se soucient guère, car la touche, pelle et contravention. C'est un usage établi parmi eux de prolonger l'apéritif matinal jusqu'à l'apparition du patron. Le voici qui surgit sur le seuil, la moustache en bataille et le fouet à la main.
Non que cet attribut soit le moins du monde symbolique. La touche, par une exception singulière à la coutume, est un homme presque courtois, qui remplace la brutalité par des phrases habiles. En 5 minutes, il a rallié son personnel, distribué la besogne sans s'être accordé un apéritif, ce qui inspire au couvreur un mélange indécis de rancune et d'admiration. De son poste, vitré comme un aquarium, Julot, l'écuisier, guette le départ des camionneurs. Est-ce le fait de vivre dans une loge ouverte à la rumeur du quartier qui lui donne l'humeur médisante d'une commère? Flatteur, verbeux, soufflant à pleine bouche la délation et le scandale. Julot appelle Louise le recouvreur, ma tante, et son mari Mimille. Il gesticule sur le quai et gueule d'un trottoir à l'autre, interpellant ses connaissances. Hey, « Eh vieux, tu paies un verre ?» Paré du prestige de ceux qui exercent une fonction publique, Julot est redouté des bateliers. Comme ces augures qui ne daignaient se montrer propices que lorsque sur leurs autels s'amoncelaient les offrandes, lui ne consent à ouvrir et à fermer ses vannes qu'après avoir touché de mystérieux péages acquittés de plus ou moins bonne grâce par les mariniers devant le comptoir de le couvreur. « Cette fois, ce sera un blanc Vichy, Mimille. C'est le patron de la belle crouaise qui régale. » Mais Julot connaît ses limites et sait le respect qu'il doit à sa profession. Son génie lui a inspiré une combine. Après entente avec Mimille, il totalise les tournées de fer de durant la journée et chaque fois, le litre sous le bras, il rentre à Pantin, où il habite, prendre une cuite dans son lit sans compromettre sa dignité. Enfin, la boutique est vide. Louise monte avec René faire les chambres du premier étage. Le couvreur frotte au grès le zinc du comptoir, rince les verres, les essuie méticuleusement, les aligne sur les étagères. Verres zébrés des apéritifs, verres à Bordeaux, à liqueur, coupe pour la glace, les cerises et le mousseux. Maintenant, une joyeuse lumière éclaire le débit. Le soleil a exaucé le souhait du père Louis. Les verres et les bouteilles s'irisent de reflets, le comptoir bien astiqué s'illumine. Que tout cela est beau, encourageant. Le couvreur remonte ses manches de chemise, secoue ses mains poissées d'une eau liquoreuse, et regarde dans le zinc poli son visage dévié et lui sourire à la renverse. Sa jubilation déborde, il caresse des yeux ses chaises, ses tables en parfait état, les deux grandes banquettes couvertes de moleskine rouge. Du plafond jaillit un lustre à trois branches. Il ne manque plus qu'un billard. Le couvreur ne peut plus y tenir longtemps, il traverse la rue, pour embrasser d'un seul coup d'œil tout ce qu'il possède. À côté, contre une balustrade, l'essuie-verre autour du cou, le regard fixé sur le dernier étage de sa maison, il se recueille. L'an prochain, il fera refaire la façade, repeindre l'enseigne. Les murs du côté de chez la Touche auraient grand besoin d'un coup de crépi. La pluie a tracé des sillons comme des rides humaines. Au premier, entre deux fenêtres, un écriteau d'avant-guerre attire l'attention. Chambre, complètement meublée à neuf, avec armoire à glace, depuis 5 francs la semaine. Pas de blague! Il s'agit d'enlever ça. Cet automne, il faudra porter les chambres à 30 francs la semaine. Le couvreur, les yeux fermés, se livre à des calculs. Ben, j'ai fait une bonne affaire, dit-il à voix haute. Des camions remontent à grand fracas le quai de Jemmap. Un souffle de vent balaie le canal. Le couvreur aspire l'air avec délices. Une fenêtre ouverte laisse voir le va-et-vient de René dans la chambre numéro 19. Une brave fille est dure à l'ouvrage, pense-t-il en regagnant sa boutique.